Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
What time is it now? Time is it now? Doctor Who? Doctor Who? What time is it now? Time is it now?
Salut à tous, on se retrouve en cette journée pour s'intéresser donc à l'actualité de la draft sur Touchdown Actu. Un jour, une pastille consacrée à chaque franchise NFL et aux différents besoins de celle-ci dans l'optique donc de la draft prévue dans quelques jours, dans quelques heures à peine du côté de Détroit. Focus aujourd'hui sur une équipe qui va forcément... intéressé énormément, intrigué pas mal au cours de ce processus draft, puisqu'on va parler des Buffalo Bills. Et pour en parler, en ma compagnie, Nitinia Simon Guéla. Salut Niti.
Salut Greg, salut à tous. Ouais, les Buffalo Bills qui ont une nouvelle fois atteint les playoffs, hein, mais est-ce qu'ils vont atteindre le Graal, c'est-à-dire aller au Super Bowl avec Josh Allen? On espère.
Voilà. Bon, en tout cas, malgré la conclusion De tous ces échecs répétés malheureusement en playoff face à Kansas City, c'est donc notamment Stephon Diggs qui est parti. Alors, pas que, hein, il y a eu beaucoup de départs du côté de Buffalo, à part faire toute l'intersaison, mais les Tre'Davious White, d'autres joueurs, notamment Mitch Morse, donc on a choisi de se séparer du côté de Buffalo pour en partir sur une nouvelle ère, hein, sur des vétérans peut-être un peu moins coûteux, sur une nouvelle génération pour être capable justement d'aller chercher ce Graal et ce Super Bowl. On va donc s'intéresser aux trois premiers choix qui pourraient intéresser donc les Bills dans cette reconstruction. J'en avais parlé hier, mais du coup, Stephon Diggs est parti du côté de Houston en échange d'un deuxième tour de l'année prochaine. Donc, du coup, on ne s'est pas non plus totalement facilité la tâche dans l'optique de la draft, puisqu'on a donc un premier tour et le 28e choix, un deuxième tour avec le 60e choix, sachant que la troisième sélection de Buffalo n'intervient que lors du quatrième tour avec la 128e sélection. Donc, il va falloir être assez intelligent, on va dire, du côté de Buffalo.
Il va falloir être malin. Mais voilà. Je compte sur Buffalo pour le faire. Ils l'ont déjà fait dans les saisons précédentes. Mais j'espère qu'ils vont encore le faire en 2024.
C'est ça. On est un peu sur un draft façon Rams la saison dernière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choix du 4e, du 5e et du 6e. Mais malheureusement, sur les premiers choix, il va falloir être en effet assez imaginatif. Et on commence avec le premier tour, Nitti, et forcément, on ne va pas être très, très original du côté de cette équipe de Buffalo, puisqu'on a choisi de sélectionner un receveur en provenance de la Géorgie.
Ouais, double champion universitaire avec Georgia. Et en 2023, c'est peut-être qu'il a manqué quelques matchs, que peut-être Georgia n'a pas atteint le Final Four, donc les places de demi-finalistes l'an dernier. Donc au college football, ce joueur c'est Ladd McConkey qui m'a impressionné, que ce soit en 2021 ou en 2022, un peu moins en 2023, mais c'est un joueur très agile avec une belle capacité d'accélération, un premier pas excellent, c'est-à-dire que voilà ce qu'on appelle le release package du côté du poste de receveur,
séparation
ouais. et il a les mains aussi très actives, notamment sur la réception, mais aussi pour bloquer, parce que c'est un bon bloqueur aussi Ladd McConkey, mine de rien. Donc, pour James Cook, voire pour Josh Allen, sur les jeux de course, il peut être assez important. Et puis surtout, on va parler plus du côté de l'effectif de Buffalo. Stephon Diggs est parti, mais il y a aussi Gabriel Davis, qui est parti également du côté de Jacksonville Jaguars. Et donc, le comité de receveurs, eh ben, il est pas folichon, folichon, hein, puisque seul Curtis Samuel est arrivé, voire Mac Hollins, que tu connais très bien. Mais il manque un receveur. Alors, Ladd McConkey va peut-être pas redevenir receveur numéro 1 à l'avenir, mais au moins receveur fiable au niveau des mains. Et je pense que Josh Allen, pour le moment, a juste peut-être Dalton Kincaid, qui est au poste de tight end, qui est fiable au niveau des mains, parce que sinon, que ce soit alors un Khalil Shakir qui a progressé en 2023 ou un Justin Shorter, bon, ça reste un peu léger.
Oui, non, c'est ça. Après, tu le disais, c'est sûr qu'on va voir un petit peu ce qu'ils nous concoctent. Mais là, sur le papier, oui, on est parti pour avoir potentiellement Kincaid en cible prioritaire avec, en effet, beaucoup de joueurs, beaucoup de slot receivers un petit peu sur le papier. Hein, Khalil Shakir, Curtis Samuel, en effet, principalement. C'est vrai que Ladd McConkey peut avoir cette image-là, pardon, au premier abord. Mais malgré tout, on a vu qu'en termes, en tant que X receveur, comme on dit, ça peut être un joueur assez fiable dans le système de Georgia, en effet, mais on a vu par exemple qu'en 2022, où il était totalement prolifique, c'était une équipe qui n'hésitait pas à lancer le ballon hein, sous la coupe de Todd Monken, qui est aujourd'hui
Non.
coordinateur offensif à Baltimore. C'est un joueur qui peut proposer énormément de choses. Dans le secteur intermédiaire, bien entendu, tu l'as dit notamment, de par sa capacité de tracer, ses appuis assez déroutants, ses changements de direction assez soudains, c'est vrai que c'est un joueur extrêmement précieux dans ce domaine-là. Mais j'insiste vraiment là-dessus, dans le domaine profond également, c'est un joueur qui peut également se faire oublier de par en effet cette aptitude de séparation dont tu parlais. Donc vraiment, et je trouve qu'en termes de gabarit et dans son utilisation, c'est pas un joueur qui est si éloigné que ça de ce que pouvait faire un Stephon Diggs par exemple. C'est forcément comparaison n'est pas raison. Donc il va falloir voir un petit peu ce qu'il est capable d'apporter et si vraiment il va réussir à atteindre le niveau qu'avait Stephon Diggs. Il n'y a rien de dit, bien loin de là, qu'il pourra le faire dès sa saison rookie, mais pas perdre non plus de vue que Stephon Diggs, à l'époque, était un cinquième tour de draft, qu'il y avait des raisons par rapport à ça, et qu'en soi, je trouve que les deux manières de jouer ne sont pas si éloignées que ça. Donc vraiment, ça peut être un joueur qui peut correspondre à l'esprit Buffalo Bills et apporter justement cette variété si vraiment on part du principe qu'on joue peut-être un peu plus massivement sur les tight ends notamment.
Bah justement, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il correspond parfaitement à la mentalité Buffalo Bills. C'est vraiment un joueur déterminé, qui a l'esprit de compétition dans le sang. Je pense qu'ils vont peut-être gagner au échange. C'est-à-dire qu'ils ont échangé Stephon Diggs
Oui, un
peut-être.
joueur plus tourné
Voilà.
vers le collectif.
Exactement. Voilà. C'est vraiment un joueur plus collectif. Il s'en fiche limite de faire des statistiques. Le mec veut juste gagner. Et je pense que Buffalo va avoir pour son argent pour après la sélection d'un receveur comme Ladd McConkey.
On passe au deuxième tour à présent avec toujours un choix offensif cette fois-ci, mais plutôt tourné sur la ligne offensive et notamment sur l'intérieur, Nitti.
Ouais, il nous vient d'Arkansas, et il joue principalement centre du côté des Razorbacks. Ce joueur, c'est Bo Limmer, Bo en plus avec un X, voilà, pour ceux qui veulent avoir l'orthographe complet du nom. Alors, Bo Limmer, si jamais il jouait, on va dire, de manière un peu plus régulier, on va dire, à Arkansas, je pense qu'il serait un joueur beaucoup plus haut que le choix numéro 60. Voilà, parce que clairement, c'est un joueur très intelligent, c'est un joueur qui n'a peut-être pas une force physique incroyable, mais c'est un joueur qui est équilibré, qui est coordonné, qui a des mains hyper actives, notamment en protection de passe, un premier pas dès le snap qui est, on va dire, plutôt très bon, voire même assez explosif. Pareil que Ladd McConkey, c'est un joueur à la détermination sans faille, mais dont l'envergure, effectivement, poste de centre peut poser question, mais j'ai envie de te dire, en poste de centre, est-ce un problème? Moi, je ne pense pas.
Non, je pense pas non plus. Je pense qu'on va potentiellement se heurter entre guillemets au même profil qu'avait Ricky Stromberg la saison dernière. C'est savoir est-ce qu'il sera plus calibré pour jouer garde ou pour jouer centre. Ça tombe bien parce qu'à mon sens, c'est la principale question aujourd'hui du côté de cette équipe de Buffalo. C'est de savoir par exemple où tu vas utiliser un Connor McGovern qui a souvent joué pardon, en tant que garde du côté de Buffalo et qui, avec le départ notamment de Mitch Morse, et potentiellement mis en concurrence avec peut-être Will Clapp sur le poste de centre en fonction de comment ça se passe. Donc pour moi, Bolimer, ça rentre aussi dans cette idée-là, c'est-à-dire que s'il est à même de pouvoir jouer centre, bah, je pense que c'est lui qui sera en concurrence avec Clapp, avec la possibilité de recentrer McGovern, qui a plus de références sur cette position de garde aujourd'hui, où on se pose un petit peu des questions. Ou alors éventuellement, Bolimer, bah, sur un peu le même registre qu'Auric Stromberg, bah, repasse sur un poste de garde qu'il a tenu notamment de mémoire en 2021, en 2022, et il se retrouve peut-être un peu plus en concurrence, notamment avec un David Edwards, pour potentiellement avoir un temps de jeu assez conséquent, assez vite. Donc il y a aussi cette possibilité-là d'avoir différentes options. Un joueur, tu le disais, qui peut apporter un peu plus d'agressivité dans les lignes. Et c'est aussi quelque chose qu'on répète année après année du côté de Buffalo, mais qui malheureusement se ressent un petit peu sur les moments importants. Donc c'est vraiment cette agressivité et cette explosivité dès le premier contact, ils peuvent l'avoir avec un joueur comme Bolimer, tout en ayant en plus cette polyvalence et cette variété, on dira, dans l'utilisation qui peut ne pas forcément être déconnante vu les besoins actuels de la franchise. Voilà. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, mais du coup, on va passer au troisième choix. Mais
On peut passer au troisième choix, oui.
très bien. Et bien, du coup, on passe au quatrième tour et on s'est tourné vers la défense et notamment le poste de pass rusher, Niti, parce qu'il y a quand même quelques petits besoins dans ce domaine.
Alors, on a un duo quand même qui est plutôt pas trop mal avec Greg
Oui.
Rousseau et AJ Epenesa. Alors, on a signé plus des joueurs de rotation et avec Casey Twill notamment, voire Deshaun Williams. Mais on peut pas nier, il y a toujours Von Miller dans
Oui.
cette équipe de Buffalo, mais on va dire il est plus proche de la fin de carrière qu'autre chose. Et puis il a manqué des matchs assez importants l'an dernier à Buffalo. Et vu son gros contrat, bon, on va pas le couper tout de suite, mais on va voir s'il peut, on va dire, être encore en bonne santé en 2024. Mais on a pensé à un joueur plus de rotation au quatrième tour, et pourquoi pas le meilleur pass rusher de la NCAA. Eh oui, puisque
Tant qu'à
c'est
faire.
lui le leader en termes de sacs du côté des Troy Trojans, enfin des Trojans de Troy. Et oui, c'est une université qui il me semble dans le, alors je sais plus où est située cette université, Greg, hein. Je sais pas si tu peux
Dans
me,
l'Alabama.
dans l'Alabama, voilà, ça y est, c'est ça, voilà, dans l'Alabama. Et en plus il était courtisé par l'Alabama avant d'être à Troy, voilà, ça y est, j'y arrive. Donc c'est Javon Solomon, donc le pass rusher de Troy, qui formait un duo avec Richard Jibunor incroyable au sein de Troy, donc champion de conférence, hein, avec les Trojans. Et puis surtout, alors, dans les vidéos qu'on voit, Javon Solomon, moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment l'explosivité, quoi. C'est, oula, les qualités de vitesse qu'il a, c'est incroyable. C'est vraiment fou. L'usage des mains a été incroyablement amélioré de 2022 à 2023. Donc c'est là vraiment où il m'a aussi impressionné. Voilà, donc ça se voit que le joueur il veut se battre. On va dire, il veut impérativement gagner son 1 contre 1 avec son tackle offensif. Et entre un AJ Epenesa un peu irrégulier, un Greg Rousseau, bon, qui commence à monter un peu en puissance au fil des années, et un Von Miller qui est toujours blessé, pourquoi pas se tourner vers un Javon Salomon qui peut être defensive end en NFL, comme il peut être outside linebacker, qui est pour moi son meilleur poste si jamais il jouera en NFL.
C'est ça, c'est plus là-dessus en effet où on peut se poser la question et où on se dit qu'avec Aaron Miller également qui joue un petit peu plus écarté, un peu plus hybride, ça peut être quelque chose d'assez bénéfique pour lui, d'assez bonifiant. Très clairement, tu l'as dit, il y a des qualités athlétiques qui sont indéniables, il y a une aptitude au duel, une capacité technique qui est assez notable. C'est un ancien lutteur assez réputé de mémoire du côté de l'université de Troy.
C'est ça.
Donc vraiment, ça aussi, il a les armes pour. Son principal problème, c'est, on va le dire clairement, c'est son gabarit. C'est un joueur qui est
Ouais.
relativement petit, qui forcément, bah, sur les duels face à des linemen, va beaucoup pâtir de la comparaison purement physique. Et malheureusement, bah, ça limite aussi son impact, par exemple, pour être performant sur le jeu au sol. Et ça interroge aussi sur la capacité à être plus qu'un pass rusher exclusif à l'échelon supérieur. Mais à la limite, j'ai presque envie de dire du côté de Buffalo, tu as un AJ Epenesa qui est assez complet dans son utilisation, tu as un Grégory Rousseau qui est assez complet dans son utilisation. Est-ce qu'en soi, C'est si problématique que ça d'avoir un joueur qui n'arrive pas en tant que titulaire drafté au quatrième tour et qui va principalement avoir pour but, on va dire, d'agiter la poche sur notamment des troisièmes tentatives, sur des phases de blitz ou ce genre de choses. D'avoir un profil comme celui de Javon Solomon, ça peut ne pas forcément être déconnant, même si, en effet, ça ne sera pas forcément un joueur utilisé sur 100% des snaps, loin de là. Mais c'est là, en effet, où il peut vraiment se démarquer. C'est surtout quand on voit, et tu le disais bien, cette aptitude qu'il a eue à se développer, à progresser au fur et à mesure. C'est un joueur assez intelligent. C'est un joueur qui sait écouter le coaching staff. Et en plus, dans un coaching staff défensif comme celui des Buffalo Bills, qui est quand même assez costaud depuis plusieurs années, en tout cas, qui reste extrêmement référencé depuis la prise de pouvoir de Sean McDermott. Pour moi, ça peut être un très bon soldat et en défense, et voire même sur l'équipe spéciale, même si on l'a dit, le plaquage, par exemple, ce n'est pas sa marque de fabrique première, mais en tout cas, c'est un joueur qui est tellement capable d'aller de monter rapidement sur les joueurs adverses que ça peut être un joueur extrêmement précieux sur l'équipe spéciale.
Ouais, c'est en fait s'il est aligné face au tackle offensif, je pense que Javon Salomon aura un peu de mal. Par contre, s'il est vraiment aligné à l'extérieur et vu sa capacité en termes de vivacité, c'est sûr qu'il va être plus performant. Il pourra déranger la poche de protection. Tu l'as dit, effectivement, sa longueur de bras, son prototype, c'est un prototype tellement on va dire en dessous. En termes de taille, en tant que pass rush. Après, j'ai vu là ses stats en 5 ans. Il a quand même fait 32 sacs et demi, hein, quand même, hein, en carrière universitaire. Ce sera peut-être moins en NFL, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que d'abord en rotation, il va pouvoir donner de la concurrence à des joueurs comme bah, Von Miller, Greg Rousseau et Jay Penessa qu'on a parlé. Mais surtout, je pense que. On sait ce qu'on a avec lui et on sait ce qu'on n'a pas. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il descend. Enfin, il sera un joueur du troisième jour, probablement pour moi. S'il est sélectionné dans les trois premiers tours, ça m'étonnerait beaucoup.
Moi
Et
aussi,
je pense que ça nous étonnerait
ça me
beaucoup.
paraît très cher payé, entre guillemets.
Voilà, c'est ça exactement. Donc, Javon Solomon, c'est un joueur vraiment à considérer au moins au troisième jour. Et tu ne perds rien, quoi, en le sélectionnant. Donc, honnêtement, c'est un joueur qui va être un joueur de rotation typique, peut-être un joueur solide pour les années à venir.
C'est ça. Je crois que j'avais vu la comparaison, il me semble que c'était chez Via Athletic. Et chez Dan Brugler, qui comparait un peu dans son utilisation à un James Houston du côté de Détroit, qui malheureusement a eu des petits problèmes de blessures
C'est
récemment,
ça.
mais on a vu que, notamment dans sa saison rookie, que quand il était lancé dans le grand bain, pourtant dans une équipe qui met beaucoup l'emphase justement sur le défi physique sur la ligne, c'était un vrai feu follet et ça pouvait être un joueur en effet capable, notamment sur des troisièmes tentatives ou encore une fois sur des phases de blitz. De vraiment faire des ravages. Donc, on peut vraiment être purement et simplement sur cette utilisation-là. Je sais plus exactement le tour exact où avait été sélectionné James Houston par Détroit.
Sixième, je crois.
C'était un
Sixième
sixième
ou...
tour uniquement?
Ouais, sixième, il me semble, ouais.
Ah non, t'as raison. Donc, du coup, je pense quand même qu'il peut être drafté un petit peu plus haut. Mais en tout cas, en effet, comme tu dis, du côté de Buffalo, on sait à quoi s'attendre globalement avec ce genre de joueur. Et en tout cas, ça apporte un profil assez différent, un petit peu plus étayé, on dira, sur ce pass rush des Bills. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur la sélection de Buffalo. On vous rappelle donc les choix avec Ladd McConkey, receveur de Georgia au premier tour, Bo Limmer, lineman offensif intérieur d'Arkansas au deuxième, et donc Javon Solomon, edge rusher de Troy au quatrième tour. Merci en tout cas, Nitti, d'avoir été avec moi au cours de ces derniers jours. Demain, vous retrouvez donc les Detroit Lions, notamment les locaux de l'étape, en compagnie a priori de Jean-Michel Bougeard et d'Alexandre Locke. D'ici là, donc restez bien connectés sur les antennes de TDA. Salut à tous et à très vite.